le monde, c'est Philippe Labrasseur et mon ami
Kevin Fur.
On est ici dans notre podcast numéro 7 pour vous parler d'un sujet que je crois qu'il va intéresser vraiment beaucoup de personnes, mon Kev. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Moi, je pense que ça devient une obsession, cette histoire-là.
Et on parle aujourd'hui de... Ah, je vous le dis pas tout de suite. Écoutez, Kev, il est vraiment magané un matin. Il est arrivé en retard, si vous avez vu le post sur la communauté du brasseur. Si vous connaissez pas la communauté du brasseur, c'est quoi, Kev, la communauté du brasseur?
Hey, pour ceux qui s'attendent à partager leur expérience, de faire partager leur brasse ou leur création, ou encore simplement une bonne bière qu'ils ont découvert, qu'ils veulent la partager avec tout le monde. C'est très le fun comme communauté, ceux qui ont des questions en même temps, mais tout le monde participe. Fait que ça nous fait le plaisir, nous ou n'importe qui de la communauté, de répondre.
Et en plus, la communauté, c'est un endroit que tu veux juste partager ta bière, que tu es fier, mais tu veux pas nécessairement te donner ta recette. Bien, il n'y a personne qui t'oblige à la donner sur notre forum Facebook, si vous voulez. La communauté du brasseur est là pour partager nos passions et nos choses qu'on aime, en fin de compte, hein, Kev?
Bien, ça ressemble pas mal à ça. Vous voulez triper, puis simplement, peut-être même apprendre par des petites questions des autres. Des fois, on va faire des recherches, puis hop, regarde, lui, il a déjà réussi à faire ça, il a fait telle technique. Ou bien simplement de découvrir une nouvelle bière qui est sur le marché.
Des nouveaux ingrédients aussi, comme des fleurs qu'on ne connaît pas. J'en ai eu une question dernièrement sur des fleurs. Aucune idée c'est quoi ces fleurs-là, mais s'il fait le test, j'aimerais ça y goûter. Hein?
Ouais, ben, justement, il y a quelqu'un qui avait fait le post sur, avec des lilas. Il voulait faire une bière avec les lilas, puis moi, j'étais très intrigué. Fait que là, ma femme a dit « Hey, les lilas ont poussé. » Il dit « Tu voudrais-tu le faire? » Ben, j'ai pas de fermenteur disponible. Fait que j'ai dit « Bon, ben, ça allait aller l'année prochaine, ça a l'air. »
Parce que, Kev, de ce temps-ci, on est encore... On commence à être déconfiné un petit peu. Merci. J'ai hâte au 15 aussi. Mais tout ça pour dire que Kev, il y a eu beaucoup de temps pour brasser, on peut dire. Fait que ses fermenteurs sont pas mal pleins. Puis, comme plusieurs de mes clients, je pense que les fermenteurs commencent à être pas mal à être pleins. Fait que je suis vraiment content de la situation qui se passe malgré tout. Ça permet au monde de peut-être brasser un petit peu plus pour faire plus leur passion. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas le temps avant de faire?
Oui, sinon, il essaie des nouvelles choses. Moi, j'ai eu un déshydrateur que je m'amuse présentement avec tous des agrumes, des fruits, puis ainsi de suite, qui va donner un résultat différent que le fruit frais. Récemment, j'ai fait une wheat beer avec des pamplemousses frais et j'ai pris deux gros pamplemousses qui étaient quand même relativement très pesants et ça ne goûtait pas plus qu'il faut pour la quantité de pamplemousses que j'ai mis dans la bière. Fait qu'on essaie d'aller chercher plus de saveur de façon différente en prenant des fruits, des agrumes déshydratés.
Hey Kev, on parle de déshydratation, tes nouvelles bébelles. Comme ça, il paraît que t'es super bon sur une mandoline.
Oui.
Ling, ling, ling. Non, pas mandoline comme ça.
Non. J'ai perdu deux bouts de doigts. Fait que vu que je voulais faire un quart de pouce, j'avais une belle mandoline pour être capable de couper directement mes fruits. Mais quand tu pèses moindrement dessus, ben tu peux faire une petite variante, puis il y a un extra doigt qui est parti, et qu'à un moment donné, je me suis chippé le doigt, puis je dis « OK, c'est beau, ça fait mal, on va faire attention. » J'aurais dû arrêter la première fois, parce qu'à la fin, mais là, j'ai perdu un gros bout de doigt sur mon autre. Fait que elle a gagné sur moi, mais ma femme elle a dit « Écoute, sur le ratio de l'utilisation que tu fais et le ratio de blessure que tu as, à pogner le bord des poubelles. »
Fait que mon cave, il sait pas comment utiliser une mandoline, il a pas mis les protections faites. Fait que un petit avertissement ici, si vous utilisez une mandoline, ça coupe très beaucoup. Fait que mettez vos protections, puis quand vous le nettoyez, oubliez pas que la lame est encore là.
Ouais, mais encore là, j'ai beau parler à n'importe qui, tout le monde a l'expérience, quelque chose de semblable, et qui ont dit, y a rien qui va valoir un bon couteau bien aiguisé. Oubliez ça, là, investissez pas là-dessus.
Fait que mon Kev, il s'est blessé, il a mal un petit peu encore au dos. C'est un petit peu moins pire, Kev, le dos?
Oui, depuis le temps, écoute, beaucoup de traitements chez mon chiro, qui est aussi neurologue, qui est physio et aussi acupuncteur, que j'adore énormément, puis il m'a pris en urgence quand que je me suis blessé. Ça va énormément mieux, mais malheureusement, malgré qu'il peut faire des miracles, quand on a une déchirure au niveau des ligaments lombaires, je peux pas. C'est le temps aussi qui va pouvoir arranger les choses.
Puis, ben, vous nous voyez présentement si vous êtes en vidéo, si vous êtes juste au podcast, écoutez, on boit du café un matin parce qu'il est quand même 7h48. Puis, Kev, il a un petit peu mal à la tête d'hier soir. Fait qu'il met ça sur le dos de la nourriture, là, mais on le sait tout, hein, Kev en fût, boit beaucoup de bière, il s'est couché tard, il est arrivé en retard pour le podcast. Fait que j'ai fait un bon petit café, il m'a emmené un bon petit matin, je pense, c'est ça, tu m'as dit?
Écoute, un échange d'énergie.
Échange d'énergie aujourd'hui. Fait que comme vous avez pu le voir dans la vidéo description, si vous voulez, ou dans le titre de notre podcast numéro 7 aujourd'hui, ben, on va vous parler de NEIPA.
Hein? L'obsession que tout le monde veut apprendre à faire, que tout le monde veut faire. Puis, malgré que j'ai brassé au-delà de 100 brasses, je n'ai jamais brassé une ligne de NEIPA.
Pour le monde, ça intéresse. On a la recette disponible aussi sur lebrasseur.ca qui est en achat. Vous pouvez utiliser ça ici. Vous allez avoir le Green Bill. On va parler un petit peu d'eau aujourd'hui. C'est pas dans le profil présentement de la bière parce que ceux qui utilisent mes recettes, normalement, c'est un petit peu plus débutant. Mais avec le podcast aujourd'hui, vous allez pouvoir ajuster votre eau. Puis on va en parler un petit peu. On a décidé aujourd'hui de séparer le podcast en deux, vu que c'est un très beau, gros, grand sujet et j'ai tendance à beaucoup parler de d'autres choses. On va faire le podcast en deux sections, ça veut dire la première section qui est...
de profil d'eau et aussi les choix de grains à utiliser pour faire ce type de bière-là.
Puis dans le podcast numéro 2, on va vous parler de fermentation, on va vous parler de houblon et...
de levure.
De levure, oui, et d'oxydation. De transfert, de tous ces points-là. On va quand même un peu effleurer le sujet aujourd'hui, question de vous en mettre un petit peu plus l'eau à la bouche. Mais tout ça pour vous dire qu'on aura deux podcasts sur les New England IPA. Et je pense que ça va être faire plaisir à beaucoup de monde qui nous écoute.
Ah ben écoute, généralement, juste les IPA, New England IPA, j'ai vu souvent des nouveaux clients qui sont venus ici. Ils disent « Je veux commencer à brasser », puis ils ont pris le goût de la bière ou de la bière de microbrasserie simplement parce que c'était New England IPA. Avec les gens, ils vont dire « Hey, je veux faire ça ». C'est pas nécessairement la bière la plus simple et la moins chère à faire aussi.
Non, mais c'est une bière quand même assez relativement qui vous laisse le temps d'éviter beaucoup de défauts. Le pire qu'on a, on en a parlé un petit peu au début, c'est l'oxydation. C'est la pire chose pour les New England IPA, puis c'est la bête noire de 90% des brasseurs amateurs ou professionnels aussi. On en reviendra si ça vous tente. Mais tout ça pour vous dire que c'est à cause du houblon qu'on va mettre dans notre bière en quantité extraordinaire à comparer de nos bières vraiment astronomiques, ben ça permet d'éviter beaucoup de défauts du grain ou du mash ou des choses comme ça. Fait que c'est une bière relativement facile à faire qu'on n'oxyde pas pour éviter des faux goûts, si vous voulez, puis des fausses petites techniques. Là. La New England IPA, je trouve que c'est la bière parfaite pour montrer que tu t'es trompé en faisant une bière, puis ça le buzz. Fait que tant mieux, hein? C'est un petit peu plus facile à faire, faut juste éviter l'oxydation.
Oui, parce que la majorité du temps, quand vous commencez à faire une bière, tant que c'est très, très goûteux, ça va cacher tous les défauts qu'on peut trouver. Comme on parlait d'une stout, on parlait des IPA régulières ou des New England IPA. Les bières les plus difficiles à faire qu'on trouve sur le marché, c'est tout ce qui est Pilsner, Lager, très, très accentué sur le grain, pas sur le houblon, très clean en bouche. S'il y a quelque chose, vous allez goûter immédiatement.
Tandis que les stouts des New England IPA et des grains caramel, des sour, ben, sour. Hein? Elle est déjà sûre, fait que c'est difficile d'avoir une lacto dedans, on la veut déjà. Fait que c'est des choses un petit peu plus difficiles. Hey Kev, ça fait un bout que je parle, puis je pense que je me suis juste dit « Salut, c'est Fit le brasseur », comme d'habitude. Pour le monde qui ne me connaisse pas, le premier podcast que vous écoutez, parce que c'est New England IPA, je m'appelle Fit le brasseur, la boutique Le Brasseur à Delsun. Boutique en ligne aussi au www.lebrasseur.ca pour tout ce que vous avez besoin pour faire la bière, des cours en ligne, des cours en magasin quand on va pouvoir réouvrir. Le magasin est présentement ouvert au public, fait que vous pouvez venir chercher vos recettes en magasin et payer. Par contre, comme j'avais dit dans mon podcast précédemment, on préfère avoir un petit peu les commandes d'avance, question de nous préparer. Et comme ça, ça vous fait moins attendre, ça fait moins de files d'attente aussi à l'extérieur.
Qu'est-ce qui est le fun, c'est que vu que vous êtes en grande demande pour les produits et les conseils ici chez le brasseur, Fitz a engagé quelqu'un pour pouvoir à vous donner un meilleur service plus rapidement, qui va permettre aussi de préparer vos recettes d'avance. Et que vu que Fitz, des fois, il va passer beaucoup de temps au téléphone avec vous ou bien quand quelqu'un vient chercher, il y a des questions en même temps. Mais en attendant, il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir donner un grand coup de main pour avancer, pour être capable de vous répondre plus rapidement puis d'avoir pouvoir brasser plus rapidement aussi.
Exactement, mon Kev, j'aurais pas dit mieux. Et mon acolyte à côté, c'est la première fois que vous le voyez, Kevin, Kevin Fu, qui est disponible sur Instagram. Il a compris comment faire les hashtags.
Oui, et aussi sur Facebook. Et que j'ai les deux. J'ai ma page Facebook, Kev en fût, et sur Instagram, kev.en.fût. Pour ceux qui se demandent si c'est juste un répétitif, je ne pose pas les mêmes choses sur ma page Facebook que sur ma page Instagram.
Ah, il connaît rien en réseaux sociaux, mais il a au moins compris ça, qu'avoir deux réseaux sociaux différents, il faut pas que tu poses les mêmes affaires tout le temps dans les deux mêmes.
Non, parce que les deux, il y a des gens qui ont les deux forums, mais malheureusement, c'est plate de suivre quelqu'un qui va se répéter sur deux plateformes. Fait que j'essaie d'être un peu différent, donc ceux que ça vous tente de me suivre, mes aventures, mes mésaventures. Plein de choses que vous allez voir. Il y a des gens qui me posent des questions, ça me fait plaisir de vous répondre. Donc, j'espère qu'on va pouvoir se voir en ligne.
Puis ta mop, Kev, comment elle se porte?
Alors, ma mop est très sec pour l'instant. Donc, pour ceux qui ont vu sur ma page Facebook, on a parlé de le dernier podcast que j'avais un casque qui était prêt. Donc, ça faisait environ 3 semaines qu'il était dans mon casque, ma bière, ma English Porter. Et là, quand que je brasse mes batchs, généralement, j'ai environ 6 gallons, approximativement, peut-être un petit peu plus de 6 gallons, et que ça me permet de remplir un keg ou un casque, puis la balance et l'extra s'en vont en bouteille. Fait que j'ai toujours, par mes gardes, et très stressé d'aller regarder mon casque continuellement pour savoir si mon bouchon va bien, puis il n'y a pas de stress, puis j'ai pas de pression. Fait que tout s'est très bien passé. Fait que cette semaine, j'ai été ouvrir une de mes bouteilles de Porter, puis ils se sont mis à gaucher dans les bouteilles. C'est comme, non, ça se peut pas, là. J'ai tout fait de correct, j'ai tout utilisé, j'ai tout checké mes affaires. Fait que là, j'ai été voir mon casque en panique pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, et mon bouchon du dessus a commencé à sortir.
Ouch!
Fait que, ouais, c'est ça. Fait que mon premier réflexe, c'est que j'ai pogné un bout de bois avec un marteau et j'ai tapé dessus pour pouvoir re-rentrer. Et après quelques minutes, j'ai entendu un pit. Puis ça a commencé à ressortir encore. Donc, j'ai pogné mon casque, je l'ai foutu dehors. Mais il faisait comme 35 degrés dehors. Je savais que c'était pas une bonne idée, mais c'est comme, qu'est-ce que je fais? Donc, en fin de compte, j'ai sorti mon keg qui est en gazification dans mon frigo. Et j'ai foutu mon casque, puis j'ai mis du duct tape partout dessus juste pour pouvoir tenir la pression temporairement parce que j'ai pas encore la valve pour pouvoir percer mon casque, pour pouvoir le vider. Sinon, je sais qu'avec la pression qu'il y a dedans, ça va voler partout. Fait que je sais pas comment je vais m'organiser pour vider ce casque-là sans faire un dégât collant.
Mais j'espère, mon Kev, qu'on va filmer ça pendant que tu vas ouvrir ton casque parce que je veux voir ça. Kev qui rouvre le casque, plein de pression, ça va être vraiment rigolo.
Ouais, ça dehors. Fait que pour ceux qui se demandaient pourquoi, il y a rien de sorcier ou quoi que ce soit. Normalement, toutes les bières que je vais embouteiller ou que je vais mettre en keg, j'utilise dans mon fermenteur Grandfather une pression avec un tuyau avec une pression qui va mettre ma bonbonne de CO2 directement par pression. Et par pression, ça va ressortir par le haut. Normalement, je le fais là-dedans, mais vu que j'allais directement dans mon casque, j'ai une valve en bas et que j'ai mis mon tuyau que j'avais stérilisé. Mais j'ai appris dans mes cours et dans mon expérience, le kit, vous avez beau peut-être nettoyer, stériliser, des fois, on a besoin de frotter. Puis dans les tuyaux, des fois, tu n'as pas accès à frotter. Et que donc, dans ce temps-là, tu te débarrasses de ton tuyau et que tu recommences à zéro et tu te déstérilises tout. Et tout ça pour dire que je viens de scraper une deuxième batch.
Rendu à deux, mais qu'est-ce que tu veux? On apprend, mon Kev. En tout cas, toi, tu apprends. Juste pour vous dire que le mien, parce que si vous avez suivi la saga des podcasts, le mien se porte à merveille et super bien. J'ai juste hâte de l'ouvrir pour pouvoir déguster cette magnifique bière qui est dedans.
Ouais, elle va être rendue trop vieille. Puis
ça fait prime, tellement là. Longtemps qu'elle est dedans là, que je me rappelle même plus c'est quel style que j'avais mis comme anglaise.
Ben, c'est une mild, me semble, que tu avais faite.
Me semble que oui, mais ça peut être une brown ale aussi. Ça peut être ma milded ou ça peut être ma better, je me rappelle plus. Yeah. J'ai comme un petit blanc de mémoire, c'est pas grave, quand on va écouter, on va le savoir c'est quoi.
Avec une tranche de vie, comme ça.
Petite tranche de vie. Aussi, on voudrait remercier encore une fois nos amis Sakoula Flow de nous avoir permis de déguster cette magnifique New England IPA qui a fait le buzz pendant tant d'années à travers le Québec. Et c'est une microbrasserie vraiment précurseur dans le monde de la bière de la microbrasserie. Une des premières microbrasseries qu'il y a eu au Québec. Si vous n'avez pas deviné de qui qu'on parle, on parle de nos amis de Boréal. Montre donc ta petite canne avec la...
Avec mes doigts meurtris. Et voilà. Avec Boréal, qui se sont réinventés, parce que Boréal, quand même, était pas mal partout. Ils avaient fait beaucoup leur place sur le marché. Des fois, vous allez dans des événements, il y avait les espaces de Boréal, et que c'était pas juste de la Bud, de la Coors Light, puis la Molson. et qu'il était de plus en plus présent. C'était de la très bonne bière, mais standard du marché, et ça fitait exactement ce que les gens demandaient.
Ben, si je me trompe pas, il y avait une blanche, une blonde, puis une ambrée. Même pas sûr qu'il y avait une noire dans le temps. Il y avait comme 3-4 bières pour satisfaire le monde, puis ça faisait vraiment la job. Tu sais, on parle de Boreal, là, ils ont commencé, je pense, en 80 quelque chose. Là. Fait que c'est vraiment un précurseur dans la bière de microbrasserie. Puis le monde était moins habitué un petit peu à boire des choses différentes que des grandes brasseries industrielles comme des Pilsner ou des L vraiment faibles en alcool, ben, faible en goût, on peut dire.
Oui.
Puis Boreal est arrivé avec un produit vraiment un peu plus goûteux pour une entrée de gamme pour le monde qui voulait avoir d'autres choses que juste la bière de Molson puis de Labatt. Puis ils ont fait un excellent travail. Ça a été un bout, par exemple, que je trouvais qu'il aurait pu faire de nouveaux produits plus innovateurs quand le monde a commencé à monter en microbrasserie. Je trouvais que Boreal avait perdu un peu de plume. Ils restaient dans leur tradition de brasser de la bière plus grand public microbrasserie au lieu d'aller chercher vraiment les amateurs. Puis quand j'ai vu ça, New England IPA de Boreal, la Nord-Est, je me suis dit, ça va-tu vraiment faire le buzz? T'sais, il me semble qu'ils se sont peinturés dans un coin tellement d'années.
Ben, ils se sont réinventés. Parce que
c'est la bière qui a fait en sorte que Boreal a sorti de, oui. Si on peut dire, des brasseries qu'on se considérait comme plus industrielles. Puis avec cette bière-là et les autres produits qui ont sorti par la suite, bien évidemment, ils se sont vraiment réinventés. Puis c'est le fun de voir un précurseur en microbrasserie un peu reprendre la place de droit qu'il y avait sur les tablettes.
Originalement.
Ouais.
Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que pour montrer à quel point que c'est des bons brasseurs, c'est que malgré tous les microbrasseries qu'il y a sur le marché, ils se sont quand même très, très démarqués.
Super démarqués.
Puis je vais toujours me rappeler quand que ça sortit, même moi, j'ai fait des line-up pour avoir cette bière-là. Au Québec, personne n'avait vraiment entendu parler de ça. Là, c'était le nouveau buzz. Il n'y avait pas de compétition. Ou quand il commençait à en avoir, il n'y a rien qui équivalait à l'IPA du Nord-Est qu'eux ont fait. Fait que là, tu te rends compte que ça coûte un petit peu plus cher, mais c'était tellement bon que le monde, c'est pas grave, c'est ça qu'on veut.
Puis il y avait des minimums, c'est pas toutes les boutiques qui l'avaient. Malgré que tu avais la ligne Boreal, ça veut pas dire que tu avais la Nord-Est disponible à ton boutique. Fait que tu sais, ils ont fait un bon coup de publicité, puis ils ont fait une bonne bière. Tu sais, c'est beau avoir une bonne publicité si la bière suit pas la publicité. Des fois, c'est un petit peu plate. Mais dans leur cas, là, chapeau Boreal, ils ont vraiment réussi de A à Z. La publicité, le fait d'avoir une rareté, le fait aussi d'avoir un prix quand même. C'était un peu plus cher, mais j'ai vu des New England IPA pas mal plus cher sur le marché aussi. Fait que le prix pour le style de bière que c'est était quand même assez intéressant. Fait que précurseur dans la microbrasserie, un peu précurseur aussi dans les New England IPA. Fait que Boreal, on se lève le chapeau. C'est la bière qu'on va boire aujourd'hui. C'est la Nord-Est de Boreal avec nos partenaires qui nous ont fourni ça. C'est qui, mon Kev, les partenaires qui nous fournissent notre bière pour nos podcasts?
Nos chers amis de Saco Laflo qui sont situés à La Prairie avec une belle boutique qui sont rendus maintenant avec leurs heures régulières. Que les choses avancent, ils ont un peu plus de liberté. Ils font toujours très attention au niveau du contact-contamination. Et que ça reste quand même très sévère pour votre sécurité et votre bien-être. Mais les produits sont toujours aussi frais et il y a toujours un grand roulement parce que tout le monde veut encore de la bière.
Oui, la bière de ce temps-ci est vraiment populaire. Surtout que les restaurants, malheureusement, sont pas encore ouverts. Les microbrasseries qui sont brewpub non plus sont pas encore ouverts. Ou à Growler, c'est effectif vraiment réduit. Je sympathise avec mes amis qui ont des microbrasseries non industrielles et même ceux qui ont des industrielles. Des fois, c'est un petit peu plus difficile. Je sympathise aussi avec mes amis qui ont des restaurants que de ce temps-ci, ils ont vraiment hâte d'avoir un plan concret pour ouvrir les industries. Fait que on compatise vraiment beaucoup avec vous. Malgré ce fait-là, le monde sont capables de mettre en canette. Ben tant mieux pour vous autres parce que le monde en boit un petit peu plus. On peut faire à cette heure des petits rassemblements à la maison, des petits barbecues pour dîner, souper. Fait que ça permet un peu de boire en compagnie d'amis, tu sais, puis de jaser de son confinement. Qu'est-ce que t'as écouté comme série Netflix, toi? Ben c'est à peu près à ça l'affaire, tu peux jaser.
Ben ouais, c'est ça. Okay. Sinon, mais pour ceux qui ont maintenant le rassemblement et qui brassent à la maison, ben hey, j'ai une nouvelle bière à te faire goûter.
Ouais, fait que ça marche beaucoup, je pense, les nouvelles bières. Fait que Boreal, précurseur dans les bières de microbrasserie, précurseur dans les bières de New England IPA. Mais Kev, c'est quoi une New England IPA? C'est quoi les specs d'après notre guide qu'on va utiliser tout le long des podcasts pour expliquer ça.
J'étais pas prête.
Et oui, mes amis, Kev était pas prête, hein? Pour une fois que Kev est pas prête, mais moi je le suis, il m'a envoyé son beau petit PDF hier ou avant-hier, puis il m'a demandé hier quand il est venu, « T'as-tu lu que j'ai fait? » Petite anecdote 101, à toutes les fois que Kevin m'envoie des notes pour les podcasts, ben la trois quarts du temps, j'y lis même pas. Fait que c'est vraiment rigolo parce que Kev est comme, « Crème, je prends la peine de faire des notes, de te faire des affaires, tu me le demandes, puis tu le lis pas. » Je dis, « Non, juste être sûr que tu sois préparé. » Puis regarde, la preuve, il l'est pas encore préparé.
Il y a des journées plus dures que d'autres. À cas de notre dernier podcast, on avait parlé justement du BJCP, qu'on n'avait pas trouvé les informations sur notre communauté. Bien, sur la dernière vidéo qu'on avait faite, j'ai Alex Caillé qui m'a envoyé un lien sur le BJCP et que ça faisait partie des 21B qui était le IPA en spécialité, que maintenant, ils ont fait une mise à jour dessus. Mes logiciels que j'avais se sont pas mis à jour et qu'en allant directement sur le site, pour ceux qui vont avoir plus de détails, ils vont être capables de trouver les informations pour la New England IPA.
Aujourd'hui, on a la spécialité IPA New England que la BJCP ont décidé de nous donner en spec. Fait que si vous voulez la faire, vous pouvez vous référer toujours à ce guide ou ce document-là. Je crois qu'il n'est pas dans Beersmith encore. Peut-être faire une mise à jour de la BJCP dans Beersmith et il va sûrement apparaître dans les styles de bière pour vous aider à créer cette recette.
Comparativement à toutes les autres IPA, malgré que ça porte le nom, c'est très, très, très différent. Fait que tout est amené au niveau du houblon, tout est amené au niveau des saveurs, au niveau de le mouthfeel, comment qu'on ressent ça en bouche. Malgré qu'il y a de l'amertume dedans, vous n'allez pas goûter l'amertume. C'est toujours une question de ratio. Et que si on regarde au niveau de l'amertume, selon...
Attends une minute, Kev. Oui. On a... j'ai vu sur un forum, je ne me rappelle plus lequel, que la personne disait « Hey, je fais une New England IPA, je mets mon houblon à telle place, je fais telle affaire, puis je trouve trop amer. » Il faut savoir que le houblon va tout le temps apporter de l'amertume, peu importe où ce qu'on le met. Si on veut avoir plus de goûts tropicaux, plus de fruits tropicaux, travaillez vos levures. Des fois, les levures vont aller chercher un petit peu plus de fruits tropicaux. Et la quantité de houblon que vous allez y mettre va emmener une certaine amertume aussi. Fait qu'essayer d'aller chercher des houblons qui sont plus forts en alpha va donner une grosse amertume, oui, mais il y en a certains qui vont donner plus de goût que vous voulez. Moi, je goûte des bières des fois là, que je trouve ça super amer, mais pourtant, c'est juste des dry hops qu'ils ont fait. Et peut-être que votre palais est moins ajusté au dry hopping, fait que vous avez plus l'impression l'IBU qui est décoloré dans le houblon, tandis que d'avoir le goût nécessairement. Fait que le choix des houblons va vraiment influencer votre bière et la quantité et la place où vous la mettez. Petite parenthèse 101.
Ben, c'est intéressant parce qu'on a toujours dit au niveau de type de bière, c'est toujours une question de ratio. On a toujours dit que plus que ton taux de sucre était élevé, plus qu'on va monter notre trop d'IBU pour pouvoir trouver un juste milieu pour être capable de trouver une balance, que ce soit agréable, pas trop sucré, pas trop amer. Et que fiez-vous pas à vos logiciels si vous travaillez avec Beersmith ou certains d'autres logiciels quand il dit que vous allez mettre du dry up et ça n'amène aucune amertume. C'est pas vrai. Si vous allez faire des tests réels dans les laboratoires, vous allez voir que vous avez quand même l'amertume. C'est juste que vous allez en avoir beaucoup moins que si vous le mettiez en début d'ébullition qui va chercher juste l'amertume et non les arômes.
Bon, mais mon Kev, assez parlé de houblon parce qu'on n'en parlait pas tant que ça. C'est le temps d'ouvrir la bière. Il est quand même fait un petit bout qu'on vous parle puis je commence à avoir la bouche à sèche. C'est parti pour l'ouverture de notre NEIPA de Boréal, mes amis. Merci à Sacco Laflo. Et comme vous pouvez le voir, si vous avez jamais bu de New England IPA ou si vous avez jamais bu la Boreal, je vous encourage fortement à l'essayer. Une belle entrée de gamme pour quelqu'un qui commence à boire des New England IPA. C'est les précurseurs, comme qu'on disait, on sent déjà les fruits tropicaux juste en l'ouvrant. C'est incroyable comment que cette bière-là dégage pour le prix que c'est. En passant, elle est disponible à Sacco Laflo si vous la cherchez sur le boulevard Tachereau à la Prairie. Nos amis Sacco Laflo, vous dites que vous avez écouté le podcast de Fitz avec Kev Enfu. Puis vous pouvez aller chercher cette magnifique bière-là et même la déguster pendant que vous nous parlez. Mettez ça sur pause, là. Allez chercher ça ou si vous êtes en auto, faites un petit croche. Allez chercher une Boréale. Mais là, on la boit pas en auto, par exemple, parce que vous allez faire arrêter par la police.
Merci, s'il vous plaît.
Fait comme qu'on peut voir la robe, mon Kev.
Et qu'on a un très beau collet, on va très pâle comme couleur, mais extrêmement brouillé. Ça, c'est quasiment un côté, pas marketing. Je vais te dire que c'est un côté qui va identifier le type de bière. Et que si ouais. On mettrait une IPA, New England IPA, sans même le sentir, sans même rien voir, juste à le voir, vous allez tout de suite faire le lien que c'est une New England IPA, juste par le type de...
robe.
Ouais.
Mais aussi par l'odeur, parce que quand tu rouvres une New England IPA, surtout le matin quand tu as bu du café, puis tes papilles sont vraiment neuve. Ça goûte et ça sent vraiment, vraiment les fruits tropicaux. C'est incroyable. J'adore le fait de pouvoir boire mon jus matinal le matin parce que pour moi, New England IPA, ça équivaut à un petit jus de fruits, là, tu sais, Oasis, qu'on met un petit peu d'alcool. C'est quand même 6% d'alcool le matin, ça?
C'est sûr?
Ouais, 6% d'alcool le matin. Il est quand même juste, comme je vous disais, pas trop tard, 7h30, 8h. Puis, ben, encore une fois, on prend une bière un petit peu plus touchée en alcool, 6% le matin, ben, de bonne heure de même. C'est pas qu'on est alcoolique, c'est juste qu'on aime ça vous faire découvrir de nouvelles choses.
Puis, c'est là que Fitz est disponible pour faire les podcasts. Fait que j'étais obligé de me lever de bonne heure parce que vous êtes beaucoup en demande. Puis, Fitz a beaucoup de travail à faire. Fait que moi, je n'ai. La fin de semaine, c'est ma fin de semaine, mais j'aime ça faire ça. J'aime ça passer du temps avec mon ami Fitz.
Mais il trouve ça de bonheur.
Ah, ouais, j'ai ça.
Fait qu'il faut qu'il vous aime en maudit pour pouvoir boire de la bière à 7h le matin quand il pourrait dormir jusqu'à 10-11h.
Ah, ça, ça aurait fait plaisir. On n'a pas, en tout cas, moi et ma conjointe, on n'a pas d'enfant. Donc, on n'a pas de responsabilité. On n'a aucun animal à la maison. Je ne suis pas obligé de me lever pour aller les envoyer dehors à la toilette ou me faire réveiller pour, avec un dégât de vomi. Peu importe ce que vous voulez, j'ai zéro responsabilité.
T'as-tu des chats, Kev?
Non.
Il n'y a même pas de chat en plus. Fait qu'imaginez comment il est vraiment... Il peut faire ce qu'il veut quand il se lève le matin, à part quand je le texte à 6h pour lui dire t'es en retard.
Ouais, c'est ça. Fait que comme ça, je peux faire une bière, puis il n'y a pas de poils dedans. C'est génial.
Bon, même si j'aurais pas d'animaux, il y aurait de la poêle quand même dedans, parce que, avec la barbe que j'ai. Comme qu'on disait, on va parler de la BJCP parce qu'il y a un de nos auditeurs qui nous a dit qu'il a trouvé dans le BJCP la possibilité de l'avoir. Et Kev est allé le chercher pour vous autres. Fait qu'on va vous décrire un petit peu la bière, mais avant, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu d'histoire. T'sais, on a parlé un peu d'histoire de la bière qu'on va boire, c'est Boréal, de où que ça part, puis tu sais, précurseur, puis tout. La New England IPA, ça part de quel endroit, puis c'est qui a inventé ça? C'est-tu les Belges?
Ça, la, on l'a appelé comme ça en français, la Nord-Est. En anglais, c'est la New England IPA. Aux États-Unis, dans le coin du Vermont, Nouvelle-Angleterre, l'État de Nouvelle-Angleterre et dans le Maine, c'est cette région-là. Je pense qu'il n'y a rien d'officiel à savoir c'est qui faisait ça en premier parce qu'il y avait des bars que c'était leur standard. Oui, c'est qui a fait de la poutine en premier.
C'est la même affaire avec les New England IPA.
C'est ça. Tout le monde a leur histoire, puis ainsi de suite. Il y a des gens qui se sont plus démarqués. Mais originalement, dans le Maine, il y avait des bars qui faisaient ce type de bière-là. Puis ça faisait partie de leur standard qui était déjà brouillé, puis ainsi de suite. Ceux qui ont beaucoup démarqué, ceux qui connaissent ça, c'est la microbrasserie de l'Alchimiste.
Tout le monde connaît l'Alchimiste.
C'est ça. Et que les gens voulaient qu'ils aillent au Vermont parce qu'eux faisaient simplement une bière. Ils brassaient juste ça. Les gens faisaient, quand ça sortait, il y avait des line-up à leur micro pour aller acheter cette bière-là seulement. Quand c'était disponible par la suite aux épiceries, avec le temps, c'est la même chose. Il y avait une date qui était annoncée pour pouvoir venir chercher des bières. Il y avait un line-up. Moi, je n'ai entendu parler pendant des années. Et c'est grâce à des amis Patricia, qui est des amis de la microbrasserie d'Overhop, qui m'ont fait un petit cadeau, qui ont reçu ça, et que j'ai pu y goûter pour la première fois. Et j'ai adoré, mais sauf que la différence, c'est que la vague de New England IPA était déjà créée. Et quand vous l'avez dit, je connaissais déjà beaucoup de New England IPA, j'ai déjà goûté à beaucoup de choses. Et encore aujourd'hui, c'est une excellente bière. Mais on est tellement bien servi au Québec de tout ce qu'on a de disponible, et en particularité la Boréale, la Nord-Est, l'IPA du Nord-Est qui est très fait un buzz et qui est encore un excellent produit aujourd'hui. On court de moins en moins à l'extérieur pour aller chercher des produits à l'extérieur du Québec parce qu'on est capable de faire des choses extraordinaires aussi.
Puis on a des très bons brasseurs au Québec qui font des excellents produits et il faut encourager notre économie locale avant tout.
Puis ça, c'est bon pour vous et pour nous. Et à long terme, on veut toujours penser à long terme. On veut qu'ils vont créer des nouveaux produits, on veut les encourager parce que présentement, encore une fois, l'économie est comme ça divague, ça divague. Il y en a qui ça va très bien, il y en a qui ça va très mal, il y en a qui sont pas sûrs, on sait pas c'est quoi leur avenir qu'ils vont avoir. Et que tout ce qu'on peut faire pour encourager, pour être capable que quand tout le monde va repartir, ben ils vont être encore là.
Fait que mon Kev, d'après notre style de bière, on a parlé un peu de l'histoire de où que ça venait. On ne sait pas exactement quelle microbrasserie ou quelle brasserie aux États-Unis a vraiment inventé ça, un peu comme j'ai dit tantôt, la poutine au Québec. Mais on sait quand même que là, présentement, on a plusieurs produits qui sont sur le marché et les grandes, grandes lignes directrices pour ça, là, c'est même si on ne va pas avec la BJCP, on peut le savoir que la bière, un, il faut qu'elle soit opaque, de couleur paille ou couleur jaune paille, un petit collet blanc par-dessus Et il faut que ça goûte vraiment les fruits tropicaux. Là. T'sais, il faut que ça goûte le houblon, puis il faut que ça goûte les fruits tropicaux. Fait qu'on va aller chercher du mosaïque, du citra, de l'amarillo, des affaires de la même, là, qui vont vous sortir un gros paquet d'arômes de fruits tropicaux.
Et que chaque monde, tout le monde se réinvente un peu, parce qu'on veut pas tout le monde faire de la même recette. Et qu'il y a des choses que vous allez moins aimer, plus aimer. Ça va rester quand même un défi quand on a parlé, même que ce soit à la maison ou dans les professionnels, l'oxydation, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant d'aller avoir acheté une bonne bière qu'on est tout excité à arriver à la maison, puis c'est comme, arc, c'est pas bon. Mais ça peut arriver à n'importe qui.
L'oxydation, c'est la pire affaire.
Et quand on avait dit, cette bière-là est plus propice à l'oxydation comparativement à toutes les autres bières qui sont sur le marché.
Fait que mon cave, pour avoir la robe là, comme ça, opaque, tu mettrais quoi, toi, là-dedans pour le style de bière que c'est?
Ben, il y a quelque chose qui aide beaucoup, qui a un double effet. Et que tout ce qui est flocon, et que les flocons de blé, les flocons d'avoine, est très haut en protéines. Et que ces produits-là vont justement laisser une robe vraiment très brouillée dedans. Et en même temps, va aider à la sensation d'avoir quelque chose de plus rond en bouche. Et quand on disait que, tu sais, l'expression qu'on revient tout le temps sur cette île-là, là, c'est juicy. C'est du jus. Ça se boit comme ça, mais prenez un jus d'orange, c'est pas comme de l'eau. Mais c'est un peu le même principe pour ce type de bière-là. Vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus rond en bouche. Comparativement que c'est une IPA régulière, généralement, c'est pas ça qu'on va avoir. On va avoir quelque chose de plus balancé. Puis là, la rondeur en bouche aide justement à garder les saveurs plus longtemps. Fait que moi, en gorge, je continue encore à goûter tous les arômes qu'on goûte des fruits tropicaux. C'est une particularité de ce type de bière-là.
En gros, quand on veut faire une New England IPA, on va être rentré un petit peu plus dans le sujet vif de la création de la recette. Parce qu'on a dit qu'on parlerait un peu, on va le séparer en deux podcasts, comme on a dit au début du podcast numéro 7. On va avoir un autre podcast qui va expliquer le reste de la New England IPA. Quand on veut faire une New England IPA, le plus important qu'on veut pour avoir le côté malt-fruit, le côté comme onctueux, le côté comme brouillé, c'est qu'on va utiliser du grain, comme Kev a dit, un petit peu des flocons. On va aller avec la base qui est tout le temps un 2 rangs. Hein? Un Pilsner, c'est un 2 rangs. Le Canada Maltais, c'est un 2 rangs. Fait qu'on va y aller avec un 2 rangs. Vous pouvez aller chercher des fois un grain un petit peu plus goûteux, style anglais, qui est super bon dans ce type de...
Du Mary Sauter. Qui est un...
Ben, Mary Sauter, je le trouve un petit peu trop goûteux. Bon, j'irais avec un Golden Promise ou un Pale anglais de. C'est un Pale anglais de nom, là. Parfait pour ce type de bière-là. Si vous voulez économiser un petit peu parce qu'on sait que ça coûte cher de houblon, ben vous pouvez aller avec le Canada Maltage de rang, qui est le grain, je pense, le moins cher sur le marché pour faire des recettes de bière. Fait que pour faire le genre de recette qu'on veut y aller, on va mettre environ un 10% de flocons d'avoine, flocons de blé, environ un 16 à 13% pour avoir les protéines puis avoir le côté hazy que ça va nous donner un peu. On rajoute tout le temps aussi un peu de blé, le blé pâle, que ça va aussi donner un côté voilé à notre bière. Tu sais, on prend une blanche, souvent c'est voilé, c'est causé par le blé. Fait qu'on va mettre un petit peu de blé dedans. Puis souvent, là, on va avoir une petite touche, mais très légère, de grains qui va vous donner un petit peu un miel, tu sais, honey malt ou mélanoïdin, va vous donner un petit côté plus miel. Ça va donner une petite couleur aussi pour avoir le côté un petit peu plus orangé au lieu d'avoir le côté plus jaune. Le fait de mettre ce genre de grains-là dans votre bière va vraiment vous aider à aller chercher le petit côté orangé. Vous en mettez pas trop, un petit 250, un petit 150, 250, 300 grammes maximum, juste pour vous donner le petit côté touché qu'on a besoin pour la couleur et un petit peu pour le goût.
Puis, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'en utilisant ces ingrédients-là, le but, c'est qu'avec le temps, on veut que la voile reste. Parce que moindrement que vous allez, par exemple, faire votre cold crash ou bien que vous allez faire vieillir votre bière dans le frigo parce que ça va rester pendant un certain temps, ça va juste faire que la bière va se clarifier. Mais avec ces ingrédients-là, ça permet de garder un voile permanent, en tout cas beaucoup plus longtemps. Puis c'est ça qu'on veut pour... l'apparence de ce type de bière-là.
Là, on a un peu mélangé la recette. Là. La première affaire qu'on va faire dans une New Indian IPA ou dans une bière, c'est de préparer notre
eau, la chose la plus importante dans toutes les bières.
Puis là, ça, il y a plein de nouvelles méthodes. Il y a plein de monde qui dit qu'il faut que tu rajoutes plus de ci, moins de ça. Plus de ci, moins de ça. Hey, j'ai mis ça, j'en ai mis assez, j'en ai pas mis assez. C'est comment ça fonctionne. C'est super facile. Premièrement, quand on veut ajuster notre eau, OK, il n'y a pas 10 000 méthodes. il faut connaître notre eau de base. Si vous ne connaissez pas l'eau de base, il y a des laboratoires spécialisés pour vous donner la valeur en eau que vous avez besoin. Si votre laboratoire ne donne pas les spécifications pour faire de la bière, ben changez de laboratoire ou dites-leur exactement ce que vous avez besoin. Comme ça, eux vont être capables de vraiment ajuster, de vous donner vraiment l'eau qu'on a. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'eau? Je ne sais pas si on a déjà parlé dans le podcast, je sais, j'ai déjà fait des vidéos sur l'eau. C'est que ici au Québec, on prend l'eau de nos fleuves et de nos cours d'eau au Québec. On est chanceux, on a beaucoup d'eau. Et notre eau est quand même assez bonne pour faire 90% des sortes de bières sans avoir besoin justement d'avoir une grosse ajustement. Pour ça, nous, on est quand même relativement chanceux. Par contre, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que malgré toutes les saisons, qu'est-ce qui se passe, c'est que vu que c'est dans des cours d'eau, on prend l'eau à travers des champs et des rivières qui passent à travers notre Québec. Et au dégel, il y a des minéraux qui changent. À l'automne, il y a des minéraux qui changent. À l'été, il fait plus chaud, il y a des minéraux qui changent et il y a plus de chlore, moins de chlore, plus de produits chimiques. Et l'hiver, il y a encore un genre de cold crash qui se crée dans nos océans, mais dans nos cours d'eau plutôt, on n'a pas vraiment d'océan. Fait que dans nos cours d'eau, qui va faire en sorte que les minéraux vont se décanter un petit peu plus puis qu'il va y avoir moins de choses. Fait que quand on veut brasser tout le temps le même style de bière, c'est important d'avoir souvent des échantillons d'eau. Si vous n'êtes pas capable d'avoir ça, je vous conseille fortement pour ces types de bières-là, soit d'utiliser de l'eau amaro, qui est disponible dans toutes les bonnes boutiques, dont le brasseur, ou d'utiliser de l'eau distillée qui n'a aucun minéraux et que vous partez de 0 ppm de tout et vous créez vous-même votre profil d'eau. Et comme ça, vous allez tout le temps avoir une bière vraiment constante puis vraiment unique dans votre style de bière, puis vous allez tout le temps propager vos minéraux. Kev, je sais que tu joues avec tes minéraux, je sais que tu joues avec ton eau. Ça te prend combien de temps faire un profil d'eau pour faire une bière?
En ayant des bons logiciels, Beersmith a déjà une base. Je vais préférer un petit peu plus Brew and Water, que vous pouvez payer gratuitement. Il va être limité, mais généralement pour 15$, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus poussé. Que vous allez pouvoir faire plus de modifications, plus d'informations dessus. Puis, généralement, au même niveau avec ce logiciel-là, vous allez pouvoir calculer d'assez près le nombre d'acides lactiques que vous avez besoin pour descendre votre pH. J'utilise ce logiciel-là qui m'aide beaucoup. Une fois que moi, j'ai acheté déjà un petit laboratoire maison qui me permet qu'à toutes les saisons, je vais retester mon eau. Généralement, moi, j'habite à la prairie, il y a une variante, mais une variante pas nécessairement majeure. Sauf que la chose la plus importante, si vous utilisez votre eau de chez vous, filtrez-la. Moi, présentement, avec le dégel qu'on a eu, les chaleurs, puis ensuite, moi, je peux sentir le chlore directement quand que je vais sortir de l'eau. Et si je ne la filtre pas, c'est une des choses qui est très, très, très néfaste pour la bière et qui ne goûte pas bon. Et que, rappelez-vous, si c'est pas bonne à boire, elle sera pas plus bonne dans votre bière.
Exactement. Fait que moi, j'ai les filtres ici au charbon actif et on a différentes sortes de filtres qui sont faits pour faire de la glace. On a l'opportunité d'avoir des filtres comme ça. C'est un petit peu plus dispendieux, vous allez dire, mais un filtre est bon pour un an. Vous pouvez le mettre directement après votre robinet que vous utilisez de l'eau maison pour boire et ça va enlever toutes les chlores puis les mauvaises choses. Il y a deux sortes de filtres, trois filtres de ce mon filtre que je vends et c'est parfait pour la vitesse d'eau qu'on a à écouler de la pression de la ville. C'est-tu clair, ça?
Oui, parce que si, un exemple, votre débit est trop forte versus qu'est-ce que votre filtre est capable de prendre, mais il ne fera pas la job qu'il devrait faire pour enlever les mauvaises choses que vous ne voulez pas dans votre bière.
Fait qu'ils vont être disponibles sous l'onglet eau dans le brasseur ou adjuvant ou peu importe. Là. Je ne sais pas où je vais le mettre sur le site web. Sinon, vous pouvez tout le temps m'appeler ou m'envoyer un courriel pour savoir le prix de ces choses-là. C'est stock Montréal, fait que c'est super vite à avoir et il n'y a aucun problème là-dedans. Un coup qu'on a parti avec un eau qui est claire et qu'on connaît notre profil d'eau existant. On va parler de ppm. C'est quoi des ppm, Kevin?
C'est des parties par million. C'est quand même une unité de mesure. Des fois, on parle en litres, on parle en gallons, on parle en grammes ou en livres. Mais les ppm, c'est des parties par million.
Ça veut dire que pour faire ce type de bière-là, on va avoir entre 150 et 200 ppm de chloride. Et ça sert à quoi, ça, mon Kev, la chloride dans ce type de bière-là?
Et que le chloride, c'est un ingrédient, un minéraux qu'on va rajouter dans notre liquide pour être capable d'aller chercher généralement plus de corps. Souvent, on va parler du chloride dans des bières comme des stouts, tout ce qui a plus de corps. Normalement, on n'en veut pas de chloride dans une IPA, mais c'est la particularité des New England IPA. On veut que ça soit rond en bouche, comparativement qu'on veut que ça soit sec. Et que le taux de minéraux est beaucoup plus élevé parce qu'on peut toujours avoir de la chloride, mais en petite quantité. Mais dans ces cas-ci, on veut quand même monter la quantité de chloride générale dans cette bière-là.
Fait que ça va vraiment aller nous donner le mouthfeel qu'on a besoin. Puis ça va nous donner aussi le côté plus doux en bouche qu'on voit quand on prend une New England IPA. L'autre minéraux qu'on a de vraiment important dans notre New England IPA, c'est quoi, Kev? Puis à quoi ça sert, cette affaire-là? Je pense que c'est une petite poudre blanche, là.
Sulfate. Et que ça, c'est un autre ingrédient qu'on va pouvoir rajouter dedans qui va pouvoir jouer normalement, qui est très élevé dans une IPA régulière. Parce que l'IPA régulière, on veut une très haute quantité de sulfate qui va permettre de mettre en avant les houblons et que ça va donner généralement un goût un petit peu plus sec. Et que c'est vraiment porté sur la saveur du houblon et non du grain.
Fait que ça va aller nous sortir notre caractère de houblon un petit peu plus. Puis ça, on veut en ppm entre 75 et 100 ppm pour être sûr d'avoir le bon ratio pour. Là, vous voyez, il y a comme une ligne entre les deux. Là. Je ne dis pas c'est 100 ppm, puis je ne dis pas c'est 75 ppm. Fait que tout dépendant comment vous l'aimez, vous pouvez ajuster votre trou de façon à ce que vous soyez dans le style, puis que ça vous donne exactement la bonne affaire quand vous buvez à votre goût, à vous, et non au goût de Kevin ou à Fitz le brasseur.
C'est ça. Et que ça va être une autre chose, une autre façon, quand vous allez vous améliorer, vous allez avoir la connaissance et aussi les équipements en conséquence d'améliorer ou de travailler sur votre bière. Ça va être une autre chose que vous pouvez jouer. Parce qu'on pourrait dire qu'on peut en avoir plus bas du chloride puis du sulfate dedans, puis avoir un ratio quand même le même. Mais si on monte tout plus haut, ça va être quand même un côté plus minéraux qui va être dedans, qui n'est pas nécessairement de mauvaise chose. Ça va dépendre de votre goût, ça va dépendre du type de bière. Mais là, présentement, qu'est-ce que Fitz fait mention? C'est que dans les types de bière, les minéraux sont quand même très élevés, malgré le ratio qui peut être semblable avec moins de minéraux, je veux dire.
L'autre chose, c'est quand on crée cette bière-là, le OG qu'on va viser environ, ça va être 1,60 à 1,70. Ça veut dire que ça va donner une bière environ à 6%, 6,5, 7% d'alcool environ. Parce que on a quand même un sucre résiduel. Parce que une New England IPA, comme Kev nous disait tantôt, on veut pas ça sec, on veut ça rond en bouche. Ça veut dire qu'il va y avoir des sucres non fermentables qui vont se créer durant notre mash et durant la capacité que notre levure a là à manger. On reviendra sur la levure dans le deuxième podcast, mais on veut finir avec un OG entre 1.1, 1.01 et 1.06, qui est quand même relativement assez sucré pour le type de bière. Ça va faire la balance souvent entre le côté houblon, qu'on a très, très, très fort, et le côté plus goûteux. Ça veut dire qu'on va balancer notre amertume avec le goût qu'on va avoir moins d'impression d'amertume puis plus de raisons de goût. Fait que si votre bière goûte un petit peu trop hoppy, trop le houblon, trop amer, ça peut être du fait que votre gravité originale ou finale était trop basse et qu'il n'a pas balancé votre bière. C'est important de bien balancer la bière pour avoir un produit qui est de qualité. Et malgré le fait qu'on va, comme je disais tantôt, on va survoler les houblons, malgré le fait que pour le type de bière, on veut entre 50 et 70 de IBU, si vous utilisez le logiciel Beersmith ou un autre logiciel, il y en a plein d'autres, ça va vous dire que vous avez 0 IBU parce qu'on va mettre les houblons tellement tardivement dans le processus de la fabrication de la bière que le logiciel ne le calcule pas. Pourtant, pour être dans le style, il vous faut entre 50 et 70% d'IBU, de l'indice d'amertume dans votre bière. Ça veut dire que, ben oui, ça va tout le temps donner de l'amertume, puis pour pas trop y goûter, parce que 50 amertume, quand c'est sec, c'est vraiment hoppy en maudit. Là. On s'entend, là, tes joues, ils veulent rentrer par en dedans. Puis 70 encore plus, je pense que la langue est capable d'absorber 80, après ça, elle goûte plus rien. C'est quasiment la limite supérieure de ce qu'on est capable. C'est pour ça que notre profil d'eau et notre profil de grain vont vraiment influencer vraiment beaucoup la balance et l'équilibre qu'on peut y avoir dans New England IPA pour goûter beaucoup plus le tropical et les goûts du houblon, tandis qu'avoir le côté vraiment amer comme une American IPA qu'on veut plus côté amertume.
Dans toutes les bières que vous allez goûter, la question de la balance dans tout ce que vous allez créer dans vos recettes est primordiale. Parce que à moins que si vous êtes capable de contrôler votre balance, par la suite, vous allez être capable de monter ou de descendre parce que vous voulez changer quelque chose. Mais vous avez besoin de bien connaître votre recette, bien connaître votre bière, bien connaître votre équipement aussi pour savoir quel genre de produit vous allez avoir à la fin. La raison pourquoi que je dis ça, c'est que, c'est un exemple, vous avez créé votre recette puis vous n'avez pas l'efficacité que vous allez vous avez prédit dans un sens, puis vous en avez moins ou vous en avez plus, mais tout ce que vous allez mettre dans houblon pour chercher l'amertume ne fitera plus. Ça va devenir trop sucré, trop amer, parce que votre gravité originale n'est pas qu'est-ce que vous avez prédit. Avec le même principe que la job de la levure à la fin, si elle n'a pas fait son travail ou vous avez pris une levure qui faisait un travail plus sec, bien, toute votre sensation de boire la bière va changer.
C'est pour ça que c'est important de bien avoir de l'équipement précis quand on fabrique de la bière. Tu sais, une glacière avec un sac de brassage, ça fonctionne. Mais quand vous voulez vous améliorer, il faut vraiment être sûr d'avoir une température vraiment constante. C'est pour ça qu'on va recirculer dans des vaisseaux puis qu'on va faire une recirculation pour être sûr que la température soit tout le temps constante et parfaite partout. Tu sais, vous allez dire que 23 litres, c'est pas si pire que ça, là, mais si on tombe dans 100, 150, 200, 1000 litres, c'est vraiment important qu'il n'y ait pas un point qui soit plus chaud dans votre mash tun pour être sûr que la formation des sucres se crée vraiment comme du monde. Fait que on veut que nos enzymes, ce soit les bonnes qui travaillent puis qui travaillent uniformément à travers notre mash tun au lieu d'avoir un enzyme qui va travailler plus d'un côté puis de l'autre côté va travailler d'une autre sorte d'enzyme. Qu'est-ce qui peut vraiment influencer votre goût? Et c'est l'important aussi de faire les tests d'iode, de vérifier que c'est fini, puis de ne pas continuer trop longtemps pour pas que les sucres qui sont complexes se transforment en sucres non complexes et qu'on se ramasse avec une bière sec avec un plus haut pourcentage d'alcool quand on voulait une bière un petit peu plus ronde en bouche et qu'on va être capable d'aller travailler un petit peu mieux nos sucres résiduels. Parce que quand on va rajouter une tonne de houblon à la fin, parce que c'est pratiquement une tonne de houblon qu'on va rajouter, bien, c'est important d'avoir l'équilibre entre les deux, malgré que c'est une bière qui est déséquilibrée naturellement parce qu'il y a trop d'houblon pour le nombre de grains ou la saveur du grain qu'on va aller rechercher, bien, il y a quand même une certaine équilibre à pas transviger parce que là, on sera plus un dans le style, puis là, ça va goûter beaucoup plus l'American IPA que ça va goûter la New England IPA. Puis si on veut faire un New England IPA, puis ça goûte l'American IPA, bien, on risque d'être déçu puis dire on n'a pas vraiment réussi notre batch.
Et qu'est-ce qu'on fait, tu faisais mention au niveau de la température, de l'empâtage, c'est que on voulait aller chercher tout à l'heure des flocons d'avoine, des flocons d'orge qui nous permettaient d'avoir un esprit en bouche beaucoup plus rond. Mais ça, on parlait aussi que l'empâtage va jouer un rôle. C'est pour ça que la température et on veut avoir quelque chose de plus élevé parce qu'on veut aller chercher plus de sucre non fermentable. Donc, ça va laisser plus de sucre résiduel, comme on a regardé à la fin. C'est une autre façon de contrôler. Et que ça nous permet d'avoir un quelque chose de plus rond, comme on a dit, avec une gravité finale beaucoup plus élevée. Et que le levure ne mangera pas tout. Puis, on va avoir justement le résultat voulu. Et que c'est un mix de température et un mix d'ingrédients.
C'est aussi un mix d'eau, parce que l'eau est vraiment importante dans ce type de bière-là. Pour avoir vraiment le côté rond en bouche, c'est vraiment important que la chloride soit beaucoup plus élevée, puis d'avoir le bon nombre de taux de ppm qui est disponible. Fait qu'on va aller jouer vraiment avec notre eau. Mais il ne faut pas se tromper, là, on est dans la limite supérieure de 200 ppm. Là, c'est vraiment élevé en tant que chloride. Fait que si vous n'avez pas le nombre de ppm que vous avez au début pour démarrer, puis vous mettez ça, crinquez ça tout de suite à 200 ppm, probablement que votre bière là, va être vraiment débalancée, puis il va y avoir des mauvais goûts qui vont être retirés de ce profil d'eau-là. Fait que quand on travaille avec les profils d'eau, quand on travaille avec une sorte de bière, je vous conseille fortement de commencer soit une bière que vous êtes habitué de brasser, puis vous allez ajuster votre eau pour goûter les différences, puis après ça, continuez comme ça. Allez pas faire un starter, faire un profil d'eau, puis changer votre build grain, changer votre équipement tout en même temps. Vous allez probablement vous planter, puis ça, vous allez être déçu de l'eau que vous... de la bière que vous allez sortir, parce que vous allez changer trop de variantes. Puis après ça, trouver l'erreur où est-ce qu'elle est, c'est vraiment difficile. Faites tout le temps, quand on modifie un processus de brassage, si vous changez votre eau, bien, c'est vraiment un gros ingrédient. Malgré qu'on pense que c'est rien l'eau dans la bière, c'est 90% de votre matière première, les amis. Fait que c'est vraiment important de le changer tranquillement, puis d'y aller graduellement. On change l'eau, on ne change rien d'autre du processus. On y va graduellement qu'on change des choses. Là, on a parlé de beaucoup de choses, des ppm. On a parlé de deux nouvelles affaires qu'on va rajouter. Il y a quand même de l'acide lactique. Vu que c'est une bière qu'on veut très pâle, on parle environ de 8 à 14 IBC. C'est une bière, comme vous pouvez le voir si vous nous regardez en vidéo, c'est pâle comme style de bière. Fait que nécessairement, le grain qu'on va mettre dans notre recette va pas faire descendre notre pH, il va plus le laisser stable. Fait que si notre pH, notre eau est élevé, il va falloir ajouter de l'acide lactique pour le faire redescendre. Et les minéraux qu'on rajoute aussi varie le pH. Hein? Fait qu'il faut prendre ça en considération aussi, que plus qu'on va mettre de certains minéraux dans notre eau, notre pH va monter ou va descendre. Fait que c'est pour ça que c'est important de bien tester et d'utiliser des bons logiciels qui vont vous calculer votre pH comme du monde, si on veut. Là. Parce que si notre pH n'est pas bien calculé avec les minéraux qu'on y rajoute, ben ça va arriver que ce ne sera pas bon. Fait que vous pouvez faire votre mélange de... Qu'est-ce souvent que je vais conseiller au monde qui vont faire de l'eau de brassage pour être sûr qu'ils ont le bon pH, c'est que vous faites votre mélange d'eau, vous le brassez beaucoup. Pour être sûr que ce soit homogène dans votre solution, vous prenez un petit échantillon, puis vous prenez votre pH. Vérifiez le pH qu'il vous donne, contrairement à le pH de votre logiciel. Et comme ça, on peut vraiment mieux ajuster avec l'acide lactique ou avec du grain acidifié. Parce que si vous n'utilisez pas d'acide lactique, c'est possible aussi d'ajouter du grain acide pour faire descendre le pH. Et ça, ça va vraiment vous aider à avoir un pH stable, tout le temps identique. Puis... ben vous n'avez pas de gros calculs à faire avec de l'acide lactique, que c'est non proportionnel, c'est exponentiel la façon que ça fonctionne. Fait que des fois, pour commencer à ajuster le pH avec du grain acidifié, c'est un petit peu plus facile. Fait que vous pouvez le rajouter dans votre Bill Grain, dans ce type de bière-là, qu'on a parlé au début, comme ça va vous faire descendre vraiment votre pH, ça va être un petit peu plus facile. Qu'est-ce que t'en penses, Kev?
Ben moi, j'ai un petit quiz pour toi.
Ben, vas-y.
Fait que, on a parlé beaucoup des minéraux, mais on n'a pas parlé aucun nom des minéraux. Et que généralement, on a 4 à 5 minéraux qu'on va utiliser pour ajuster notre eau. Mais qu'est-ce qu'ils font chacun?
Ouais, mais ça, on fera un podcast complet sur l'eau, parce que ça fait déjà assez longtemps qu'on parle de New England IPA. Si on tombe dans la grosse technicalité de l'eau, on finira pas tout de suite notre podcast. Puis à l'heure qui est rendue là, j'ai comme des clients qui sont à veille d'arriver, moi, là, puis je suis pas prête.
Et soyez patients. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. On va pouvoir compléter en même temps notre podcast sur la New England IPA. Et que j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et en même temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les envoyer directement sur la page du vidéo sur YouTube dans le questionnement, ou vous pouvez envoyer directement un courriel sur podcast@commercial-lebrasseur.ca.
Hey Kev!
Yeah man!
Tu sais, on n'a même pas parlé de la bière boréale qu'on est en train de boire.
C'est pas bonne.
Fait que je voulais juste prendre un petit 2 minutes pour finir avec la dégustation de la bière. Je sais que beaucoup d'entre vous qui écoutent présentement la vidéo connaissez déjà les New England IPA. Beaucoup d'entre vous qui écoutent, ils ont commencé justement avec la Nord-Est de Boréal. Je voulais dire que c'est une bière qui est vraiment dans le style d'après la BJCP. Si on regarde les specs sur la canette qui nous dit 6% d'alcool, c'est vraiment ça qu'on a. Il nous donne un 75 d'indice d'amertume. Tantôt, je disais, c'était entre... c'est un petit peu trop, un petit peu plus haut de qu'est-ce qu'on voudrait. Si on veut 50 à 70. Mais comme c'est les précurseurs, c'est correct. T'sais, on s'entend. On peut pas vraiment les blaster. Question couleur et opacité. Ils sont vraiment dedans. C'est des précurseurs, on peut pas trop les blaster. Puis, question de goût, mais ça goûte vraiment la New England IPA. Si vous avez déjà bu des New England IPA, c'est ça que ça goûte. Tout dépendant quel style que vous voulez, là, les houblons vont donner différents fruits tropicaux. Comme qu'on l'a dit tantôt plusieurs fois dans ce podcast-là, ben on va y revenir dans le podcast numéro 2 des New England IPA. D'ici là, j'espère que vous allez goûter. J'espère que vous allez goûter d'autres New England IPA pour vous faire votre palais. Si c'est pas déjà fait. Si vous avez le goût de faire une New England IPA, ben il y a la recette tout le temps qui est disponible au www.lebrasseur.ca, l'onglet ingrédients recette NEIPA. C'est une recette que vous choisissez vos houblons. Fait que je vous conseille fortement d'aller lire sur les houblons pour savoir quel goût vous voulez lui donner. Les levures aussi sont c'est vous qui les choisissez. Fait que allez choisir la levure qui vous permet d'avoir le profil de goût que vous voulez. Puis je pense que c'est tout, mon cave.
Oui, je pense qu'on a fait le tour pour cette première partie-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié, puis que... c'est ça.
Et j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-moi le savoir. Partagez-le en grand nombre. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour rien manquer de ce qui se passe. Puis on se voit dans le prochain podcast, les amis. N'oublie pas de partager. Ciao!
Bonne brasse, tout le monde. Fait que cette partie-là de la bière va être vraiment... je sais même pas si je m'en vais que ça.
Fatigué.
Mal à la tête. Avec...
C'est notre façon de contrôler avec...
C'est ça. Oui.